BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
On répond à vos questions tous les jours dans Tout pour investir. On s'occupe ce jour de vos impôts. Vous le savez, cette semaine, c'est le début de la... Qu'est-ce qu'on peut dire? La campagne des impôts 2024. Et pour nous éclairer et y voir plus clair dans le calendrier, c'est un fiscaliste qui est avec nous, l'avocat Olivier Jeannoret. Bonjour Olivier.
Bonjour Lorraine.
Du cabinet Arsène, vous êtes avec nous pour répondre très simplement à cette question. Quand allons-nous devoir déclarer nos impôts?
Écoutez, le compte à rebours, est prêt à être lancé puisque dans 60 heures à peu près, vos espaces sécurisés vont être ouverts. Donc le 11 avril débute cette campagne. Et cette campagne, elle va s'étaler comme d'habitude jusqu'à début juin, puisque en fonction de votre département, alors ça c'est un peu un fruit de l'histoire, hein, le jeu des départements, en fonction de votre département, vous aurez plus ou moins de temps pour faire votre déclaration. Les premiers départements, ce seront le 23 mai pour les départements 1 à 19. Les départements 20 à 54, ça sera le 30 mai. Et enfin, les derniers, de 55 à 976 exactement, jusqu'au 6 juin. Sachant qu'ici, on parle des déclarations via votre espace sécurisé, via Internet. Si vous êtes encore en déclaration papier, ce qui normalement ne devrait plus être le cas pour la grande majorité d'entre vous, c'est le 21 mai à minuit. Donc attention, on a beaucoup moins de temps quand on n'est pas digitalisé.
Mais ça n'a quand même aucun sens, ce calendrier échelonné pour les départements à l'heure des déclarations numériques.
On pourrait imaginer qu'à l'époque, c'était une question de poste, mais aujourd'hui, on est bien d'accord. À part l'utilisation massive les dernières heures qu'on peut rencontrer, les bugs qui peuvent exister, d'ailleurs, on l'a souvent au début de la campagne, c'est-à-dire que le 11 avril est souvent décalé de quelques heures ou de quelques jours en fonction de l'accessibilité.
Ouais.
Mais voilà, cette fin de délai est le fruit de l'histoire. On est nombreux à vouloir quand même une certaine homogénéité en la matière. Naturellement, en allant chercher la date plutôt du 6 juin que celle du 23 mai, parce que y a quand même beaucoup de travail à accomplir pendant cette période.
Voilà, ne pas trop charger les serveurs du site des impôts. Bon, très concrètement, il y a un agenda de déclaration à avoir en tête. Vous allez nous l'apprendre ou nous le rappeler. Quelles sont les dates clés que vous voulez nous signaler aujourd'hui, cher Olivier?
Alors, les dates clés, au-delà du 11 avril, au-delà des quelques dates de fin mai, il faut imaginer ici, c'est qu'on a parfois, en fonction de ses activités, un besoin d'anticipation, puisque lorsque vous avez des revenus professionnels à déclarer, des SCI, des revenus de SCI à déclarer, on est au 3 mai, avec une extension de 15 jours si on opère par télédéclaration. Mais donc voilà, c'est par anticipation à la déclaration de revenus elle-même qui devra reprendre les chiffres que vous aurez naturellement intégrés dans les précédentes déclarations qu'il faudra avoir réalisé précédemment. Donc voilà, on est vraiment dans ce momentum entre début avril et début juin. Naturellement, plus vous y prenez tôt, moins vous ferez d'erreurs.
Les erreurs, elles sont multipliées par évidemment le nombre d'activités que vous pouvez avoir ou l'origine géographique de vos activités. On va passer cela en revue. On va essayer de lister les bêtises à ne pas faire.
Alors, les bêtises, heureusement, avec le temps, on en fait de moins en moins. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette intelligence artificielle dont on parle régulièrement, qui est là pour vous rappeler un certain nombre de revenus que vous avez déjà perçus.
On aimerait bien un peu plus d'IA encore dans notre déclaration.
Voilà, et probablement, si vous avez une déclaration assez simple, parfois vous n'avez plus rien à faire. Donc ça, c'est une bonne chose. Si dans un certain aspect, c'est une bonne chose, dans l'aspect plus psychologique autour de cette déclaration et cette volonté de contribuer aux charges publiques, quelque part, on s'y perd un peu. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de données qui sont d'ores et déjà dans votre déclaration, que ce soit vos revenus, vos salaires, votre employeur les a télédéclarés, que ce soit des revenus passifs, des dividendes, des intérêts qui ont été télédéclarés par votre établissement bancaire. Donc voilà, on a quand même un nombre de données importantes, nécessairement quand on est sur des revenus fonciers, là vous avez tout à faire. Lorsqu'on est des revenus étrangers, de la même façon vous avez tout à faire, puisque les télétransmissions ne se font pas ici. Là où c'est plus facile aussi, c'est que l'année dernière, on avait notre déclaration des biens, qui était une nouveauté. On pensait que c'était pour justement être le pendant de la fin de la taxe d'habitation.
Ouais.
En réalité, on se rend compte que c'est pour aider quand même l'État à venir rehausser un certain nombre d'assiettes soumises à d'autres impôts. La taxe foncière en fait partie. Et donc voilà. Et cette déclaration-là, s'il n'y a pas de changement, il n'y a rien à faire. Donc l'année dernière, ça a été vraiment une grande difficulté. Il y a eu de nombreux reports dans la capacité de déclarer ces biens immobiliers. Cette année, vous n'avez rien à faire si cela n'ont pas changé. Se dire quoi ? Se dire si vous êtes toujours propriétaire des mêmes biens, vous n'avez rien vendu, rien acheté. Et si vous êtes propriétaire et que vous louez ce bien-là et que votre locataire est resté le même, vous n'avez rien à faire non plus. Sinon, il n'y a que ces petits changements à réaliser.
Vous êtes presque en train de rendre la déclaration d'impôt sympathique, cet ami.
L'administration fiscale, Bercy, essaye de faire en sorte que ce soit le moins pénible possible, en effet. Moi, j'y suis pour rien.
Bon. C'est bien de dire les choses qui fonctionnent bien, c'est vrai, parce qu'on est souvent critique de beaucoup de choses, mais en l'occurrence, vous nous rappelez, vous nous apprenez que cette déclaration, elle s'automatise, elle se digitalise, et que donc, du coup, on a un peu moins de travail, de fourmis à faire. Néanmoins, quand on détient des comptes à l'étranger, et ça concerne beaucoup de nos auditeurs qui sont des investisseurs en crypto-monnaie, je pense à eux, mais aussi à certains d'entre vous qui nous écoutez, qui avait des revenus de l'étranger, vigilance.
Vigilance, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est résident fiscal de France, on doit payer ses impôts sur ses revenus mondiaux. Donc les revenus perçus en France, naturellement, mais aussi ceux perçus à l'étranger. Mm-hmm. Donc que ce soit des revenus locatifs, des revenus de passifs, dividendes, plus-values, etc., sur des actions étrangères, tout doit intégrer votre déclaration fiscale. Ce qu'on sait par ailleurs, c'est qu'il y a des déclarations spécifiques qui permettent d'éviter la fraude fiscale. Mmh. C'est ça l'objectif, donc elles sont tout à fait louables. Et notamment, l'obligation de déclarer ses comptes qu'on détient à l'étranger, l'obligation de déclarer aussi les comptes de crypto-actifs qu'on peut détenir à l'étranger. Pour les comptes bancaires, c'est assez simple aujourd'hui, parce que ce qui existait déjà avant est quand même repris d'une année sur l'autre.
Oui.
Pareil pour les crypto-actifs, mais les crypto-actifs étant plus récents, il y a moins de... on est moins complet en la matière aujourd'hui, donc ça demande plus de travail. Et puis surtout, les informations qu'on obtient de nos fournisseurs, de nos prestataires, sont souvent moins complètes que celles qu'on obtient des établissements financiers.
On pense à tous ceux qui utilisent des providers de cartes bancaires basés à l'étranger. Je pense notamment à Envolute ou N26. Et ça aussi, ça s'est amélioré d'une année sur l'autre ?
Alors ça s'est amélioré parce que la communication s'est améliorée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que ces comptes-là ne sont pas hébergés en France.
Mm-hmm.
Et par conséquent, on sait davantage qu'il faut bien les intégrer dans sa déclaration fiscale. Après, je vous rassure, d'expérience, quand on a un N26 qui n'est pas déclaré, on arrive à régulariser ça sans pertes et fracas avec l'administration fiscale. Donc, encore une fois, c'est pas parce qu'on l'a oublié involontairement, c'est un vrai oubli l'année dernière, qu'il faut continuer dans cet oubli.
Bon, les plus grosses bêtises que vous avez observées l'année dernière et que en 2024, on n'a plus le droit de faire.
Alors, je sais pas si c'est. Alors, les plus grosses bêtises, c'est d'oublier un revenu. On sait très bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas de revenu qui n'intègre pas notre déclaration. Mmh. Même quand il s'agit d'un report à titre informatif, vous faites une plus-value immobilière. L'impôt, il est prélevé par le notaire, il est directement versé. Il faut quand même l'intégrer dans sa déclaration fiscale parce que ça peut avoir un effet de bord sur un certain nombre de taux appliqués, d'avantages qu'on peut retirer liés à notre situation patrimoniale et en termes de revenus. Donc, après, les plus grosses erreurs, mais qui sont involontaires, qu'on remarque, c'est les oublis dans les reports. Vous verrez, dans votre déclaration, il y a ce qu'on appelle la 2042, qui est la déclaration principale, qui doit normalement tout synthétiser. Mais à côté, vous pouvez avoir plusieurs autres déclarations.
2042 avec beaucoup de lettres.
Avec beaucoup de lettres, des 2047, des 3916. On a vraiment un jeu en la matière. On peut faire du bingo sans aucune difficulté. Et voilà. Et souvent, le report se fait automatiquement si on coche une case. Et si on oublie de la cocher, eh ben on se retrouve à ne pas avoir ce revenu dans sa déclaration de synthèse, en quelque sorte. Et donc, que ces revenus, potentiellement, ne sont pas soumis à l'impôt. Donc, ce sont des erreurs qu'on arrive à corriger de la même façon, mais qui impliquent parfois, régulièrement plutôt, des contrôles fiscaux, puisque l'ordinateur de l'administration fiscale s'en rend compte de cette erreur.
Au-delà du calendrier que vous êtes en train de nous apprendre ou nous réapprendre, ces dates limites pour faire ces déclarations de revenus en ligne, et puis, voilà, les points d'attention qu'il faut avoir en tête, il y a cet état d'esprit dans lequel les Français se mettent au moment de faire leur déclaration d'impôt. On devient très critique tout d'un coup, ou encore plus, de l'usage qui est fait de nos impôts. Le gouvernement est en train de serrer les vis sur beaucoup de dépenses, cherche de l'argent aussi. Le consentement à l'impôt de nous, Français, va-t-il être plus difficile cette année ?
Alors, ce qui est certain, c'est que le pilier... un des piliers de notre société, c'est l'impôt. Et le consentement à l'impôt, c'est le fait d'y aller de façon délibérée et de ne pas avoir ce sentiment d'expropriation. Et naturellement, cette période-là, elle est très importante quand même d'un point de vue philosophique, parce que c'est l'acceptation par le contribuable de payer un impôt pour financer les charges publiques. Sur ce consentement à l'impôt, régulièrement, mais plutôt en juin, en juillet, donc postérieurement à cette période, il y a des études qui sont faites. Le point positif, c'est que ces études montrent une acclimatation de plus en plus forte année après année. C'est-à-dire qu'en 10 ans, les Français trouvent la fiscalité de moins en moins excessive. Donc ça veut dire qu'ils étaient 55% l'année dernière, ils étaient 10 points de plus il y a 10 ans. Donc ça veut dire
qu'il y a une... trouver qu'ils payaient trop d'impôts.
Exactement. Donc aujourd'hui, on a quand même plus d'un Français sur deux qui trouve que l'impôt est excessif, mais c'est moins que il y a 10 ans. Donc ça veut dire quand même que la politique du président Macron, qui a été celle d'aller choisir une stabilité plus forte, parce que si vous vous souvenez, depuis le premier quinquennat, il y a une loi très importante au début qui a vraiment fait évoluer la fiscalité du patrimoine, mais depuis, très peu de choses.
Visibilité, stabilité, ça donne plus de confiance, quoi.
Ça donne confiance, et quelque part, on comprend mieux pourquoi on paye de l'impôt, même si, encore une fois, beaucoup le trouvent excessif, beaucoup considèrent qu'ils ne reçoivent pas suffisamment par rapport à ce qu'ils contribuent. Et naturellement, en fonction de la nature des impôts, la réponse n'est pas la même. L'IFI, par exemple, 82% des Français la trouvent totalement justifiée. Bah, c'est logique, parce que plus de 82% des Français ne la payent pas.
Oui.
Quand on ne paye pas, on trouve l'impôt. Et quand c'est les autres qui le payent, on le trouve l'impôt beaucoup plus juste, nécessairement. Donc voilà. Donc c'est vrai que dans le contexte dans lequel on est, où on voit, ou en tout cas on ressent qu'il va y avoir des évolutions, potentiellement une première loi de finances rectificative cet été, ou à la rentrée, ce qui ne serait pas arrivé depuis le début des quinquennats du président Macron, changerait quand même la donne quant à l'état d'esprit que les Français pourront avoir face à leur déclaration.
55% des Français qui pensent que l'impôt est excessif, c'est 10 points de moins qu'il y a 10 ans. Est-ce que la bonne question, ça serait pas plutôt, est-ce que nos impôts sont bien utilisés ?
Exactement. Et d'ailleurs, c'est le pendant de ce que beaucoup disent. Aujourd'hui, on a des taux d'impôts qui ne peuvent quasiment pas être augmentés. Je laisse le prélèvement forfaitaire unique de côté, où on a un taux d'impôt charge sociale compris à 30%. Donc on voit bien la facilité d'augmenter ce taux-là. Mais à côté de ça, tous les revenus, on va dire, du quotidien, c'est 45% de taux marginal d'imposition. Il y a une contribution exceptionnelle sur les revenus qui n'a rien d'exceptionnel parce qu'elle date de plusieurs présidents maintenant, qui nous permet d'atteindre un taux de 49%. Donc on voit bien qu'avec de tels taux, il est difficile d'aller chercher davantage d'imposition sur le patrimoine lui-même. À côté de ça, on voit par exemple les impôts fonciers ont été multipliés par deux en quelques années par justement la revalorisation des bases foncières. Donc il y a quand même une augmentation des impôts, quoi qu'on en dise, même si les taux facialement n'évoluent pas, mais il est très difficile de les faire évoluer à la hausse aujourd'hui. Donc très probablement, il y a deux secteurs sur lesquels on peut travailler. Les contrôles fiscaux, et c'est ce que fait l'administration fiscale, les contrôles fiscaux augmentent significativement parce que c'est une rentrée d'argent supplémentaire, et l'utilisation des impôts qui sont levés, naturellement, les charges, les dépenses sont aussi une source d'économie réelle.